RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Aujourd'hui, Flora Guebali est avec nous. Elle est entrepreneur dans la transition écologique. Charles Consigny, l'avocat, est avec nous aussi, tout comme Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. C'est la deuxième heure des grandes gueules. On va reparler des propos tenus par la députée de la France Insoumise, Aurélie Trouvé, hier dans les GG, lorsqu'elle dit si l'extrême droite gagne, c'est l'insurrection, c'est le droit à la révolte. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière insurrection? Est-ce qu'effectivement, est-ce que ça reste un respect du vote démocratique si jamais on se révolte derrière parce qu'on n'est pas d'accord avec le résultat? Vous venez en parler à 11h-20, à 10h-20. 7 Français sur 10 préfèrent un bon salaire plutôt que du temps libre. Ça s'est inversé. Juste après le Covid, c'était on préférait avoir du temps libre plutôt qu'un bon salaire. Là, maintenant, on préfère avoir un petit peu plus d'argent. Mais d'abord, parlons de l'appel du 18 juin.
Les Français parlent aux Français.
Quatre-vingts ans après, c'est un autre Charles qui parle à la France.
Je reçois de très nombreux messages, de très nombreux témoignages de Français valeureux qui sont exaspérés par le déclin de notre pays. J'ai décidé qu'il était temps de me tourner vers eux, de nous tourner vers eux, à travers un nouveau média. Média au sens latin, au sens de médium, intermédiaire, que j'ai appelé Français Libre. À travers des vidéos, des interviews, des tribunes, je vais mettre en lumière ces Français qui se battent et qui, ce faisant, gagnent leur liberté et permettent la nôtre, collective, celle de la France. Ce sont donc à la fois les entrepreneurs, les patrons qui partent à la conquête des marchés étrangers, mais aussi ceux qui se lèvent tôt le matin pour s'occuper de nos aînés, pour s'occuper de nos malades. Il n'est pas question pour moi de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle. Je ne vais pas être le 39e candidat de ce qui ressemble déjà un peu à une farce. Ensemble, nous nous battrons à notre façon pour ce grand et beau pays que nous aimons.
L'appel de Charles Consigny à ce que les Français s'expriment et fassent valoir les bonnes idées, les bonnes initiatives. Il veut faire parler la France, Charles.
Faut que tu nous dises un peu plus de tout ça.
Alors, je constate plusieurs choses. D'abord, je reçois effectivement ces messages qui ressemblent un peu au témoignage des auditeurs qu'on a ici dans l'émission, de Français qui sont exaspérés par ce qui ne va pas en France, par ce qui ne marche pas, qui sont exaspérés par l'écroulement des services publics, qui sont exaspérés par le niveau devenu complètement délirant de fiscalité, de prélèvements obligatoires, qui sont exaspérés et inquiets du déclin de leur pays, ce genre de témoignages. Je rencontre aussi souvent des gens exceptionnels, petits et grands, qui, chacun à leur façon, à mon sens, sont ceux qui participent de faire de la France, encore aujourd'hui, mais pour combien de temps c'est la question, un pays libre. Donc ça va effectivement des entrepreneurs qui construisent leurs boîtes, créent des emplois, conquièrent des marchés étrangers et ne comptent pas leurs heures. Mais ça va aussi, moi ce sont des gens, et je le dis, ça peut paraître démago, mais je le pense vraiment, ça va aussi jusqu'au premier de corvée, c'est-à-dire ceux qui ont le dévouement et le courage et l'humilité de s'occuper des vieux, de s'occuper des malades, les agriculteurs comme Didier qui travaillent 7 jours sur 7 et qui ne comptent pas leurs heures pour des salaires modestes, tous ces Français qui sont sur le pont, si vous voulez. J'aurais pu appeler ça sur le pont. Et je trouve que l'élection présidentielle approchant, on a de plus en plus de candidats, ce qui fait qu'on entend de plus en plus les candidats, mais on entend, je trouve, très peu les Français. On entend très peu les gens qui sont le vrai moteur et le vrai poumon de ce pays, ceux qui vraiment font vivre ce pays. Donc j'ai décidé, moi, d'essayer de mettre ça en lumière. Pour l'instant, c'est un site internet. Je vais le faire aussi en version papier pour ce qui sera plus le fond, la théorie, les tribunes, etc., ce qui sera un peu plus scientifique, c'est beaucoup dire, mais faire quelque chose un peu comme fait le Grand Continent, qui est cette revue de diplomatie européenne qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps à la faveur des troubles géopolitiques. Moi, j'ai envie de faire ça à l'échelle de la France et de l'Europe. Évidemment, mon idée derrière, c'est de mettre en valeur les Français qui sont sur le pont pour à la fois qu'on voit les problèmes, qu'on voit les Français face à ces problèmes et qu'on voit aussi les Français valeureux qui portent ce pays.
Mais c'est pas une déclaration de candidature.
Ça n'est pas une déclaration de candidature.
Comment on y participe ? C'est-à-dire que c'est des contributions ?
J'ai créé un site internet qui s'appelle Français Libre sans CDI, parce qu'on peut pas mettre avec la CDI, françaislibre.com. Dessus, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez envoyer vos propositions. Donc moi, j'ai déjà identifié un certain nombre de Français libres que j'ai envie de mettre en valeur, mais chacun peut m'envoyer son projet et moi, selon ce qu'on m'envoie, je viendrai ou pas avec mon équipe de caméras pour tourner. Déjà, j'échangerai dans un premier temps avec les intéressés pour voir ce qu'il y en a, etc. Et ensuite, j'irai tourner chez ces Français. Donc, je vais faire une espèce de tour comme ça de tous ces Français.
Mais ensuite, c'est pour soumettre ces contributions au candidat ?
Voilà, je pense que ça permettra de faire émerger des choses très concrètes, parce que franchement, quand j'entends les candidats en ce moment, je veux pas tous les mélanger, etc., mais enfin, il y en a, les propositions restent très nébuleuses, et la différence entre le réel vécu par les gens et ce que proposent les candidats actuels me paraît quand même souvent assez abyssal. Donc moi, j'aimerais rapprocher tout ça et qu'on comprenne la vraie mesure. J'entendais récemment, je ne le citerai pas, mais j'entendais un ancien éminent ministre de l'économie qui, en off, expliquait que depuis qu'il se frottait au secteur privé, il se rendait compte que la fiscalité française, en fait, elle tenait du vol pour les indépendants.
C'est lui qui l'a mis en place.
Les professions libérales. C'est bien de s'en rendre compte après des années de gouvernement. Bon, bah, moi, j'ai envie, voilà, qu'on sente tout ça, qu'on voit tout ça, et on verra bien ce qu'on en fait. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut contribuer à faire émerger la vraie situation de ce pays et les vraies aspirations des Français. Parce que ce que je pense par ailleurs, et j'en termine par là, je suis déçu de voir que j'ai l'impression qu'on tourne le dos à un certain concept français qui s'appelle le panache. Et moi, je pense que le panache, c'est essentiel en France. C'est un mot qui n'existe pas dans les langues étrangères. J'ai regardé les traductions. Il n'y a pas de traduction littérale de panache. On dit le style, la bravoure, l'élégance. Enfin, il y a plein de traductions possibles, mais c'est un concept très français. Et c'est grâce à ce concept qu'on a fait Versailles, sur lequel on se repose encore aujourd'hui, qu'on a eu De Gaulle qui s'est opposé tout seul aux Allemands sans le moindre mandat, grâce auquel nous sommes libres encore et souverains aujourd'hui, qu'on a eu Napoléon et ses armées, je cite un mot d'un colonel napoléonien dans ma vidéo qui exigeait de ses cavaliers qui gardent la tête haute, il leur disait « Oh les têtes, la mitraille c'est pas de la merde !» parce que ça l'agaçait de les voir baisser la tête parce qu'ils se prenaient des boulets de canon, mais lui il voulait que sa cavalerie ait de l'allure. C'est ça la France quand même. Et donc, voir notre pays se ratatiner comme il est en train de le faire en ce moment, moi je trouve ça insupportable. Donc j'ai envie de faire vivre aussi cette idée-là à travers des Français qui ont du panache.
Flora.
Il y a un truc en politique qui s'appelle les écuries, longtemps pratiqué au PS. Chaque leader avait son écurie, ça veut dire qu'il avait ses troupes, il avait sa petite bande.
Son courant.
Oui, son courant. Mais c'était surtout pour
une écurie présidentielle.
Pour montrer de la force, et à la fin, on faisait l'addition des écuries, et ça donnait un candidat qui avait de la force, parce que chacun ramenait sa petite équipe, ses petites idées en plus. Charles n'étant pas adhérent à un parti, je pense peut-être l'UMPLR qui serait le plus proche de tes idées, ou j'en sais rien d'ailleurs, peut-être tu t'y retrouves pas.
Je n'ai pas de carte.
A besoin de son écurie, c'est tout à fait normal à ce stade de sa carrière. Il a besoin d'avoir ses idées, son groupe. Le problème, c'est que dans les chaînes d'info, quand on parle, bah ça disparaît assez vite. Hein. On est remplacé par un autre programme, par une autre journée, par une autre actualité. Donc, pour avoir des idées qui restent et qui prennent de l'ampleur, il a besoin de son écurie. Donc, il lance son écurie.
C'est pas mon but, hein. C'est pas ça que je fais. C'est pas un parti politique, hein.
Non, mais c'est un petit mouvement qui permet de te donner de la force.
On peut même pas adhérer au mouvement. C'est vraiment des reportages, des articles, des interviews qui visent vraiment à montrer comment est ce pays en ce moment, comment vivent les Français, quels problèmes ils affrontent et comment ceux qui arrivent à s'en sortir le font. C'est vraiment une espèce de cahier de doléances, disons. Il y a un côté, voilà, cahier de doléances.
Cahier de doléances, comme c'était aussi la technique de Macron en 2017, qui lui non plus n'avait pas de parti. C'était d'aller chercher.
Macron, Charles est le nouveau Emmanuel Macron.
Je n'irai pas jusque là.
Sur la langue.
En termes de compliments, en termes d'éloges. En revanche, me permettrai de finir. Je trouve la comparaison au général de Gaulle un peu trop audacieuse. Il y a un excellent film qui retrace l'histoire de l'appel du 18 juin en ce moment en salle qui s'appelle De Gaulle, dans la bataille de Gaulle. Allez le voir, c'est vraiment bien. Et vous verrez que il est dans un contexte autrement plus complexe.
Je sais pas. J'ai l'impression de ne pas parler français.
Il se prend pas pour De Gaulle.
À aucun moment, je ne me suis comparé au général de Gaulle. Ni n'est créé un mouvement comme En Marche. Je prends cette date du 18 juin parce que moi.
Cahier de doléances, c'est qu'on est le 18 juin.
Mais De Gaulle n'a pas fait de cahier de doléances. Moi, je trouve que on doit renouer aussi avec notre idée de liberté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Français laissent leur liberté se rogner de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette idée de Français libre. Et donc, évidemment, Français libre, je peux pas choisir une autre date que le 18 juin.
Didier, écoute, moi qui ai un peu compris le concept, chaque fois qu'on parle du 18 juin, permettez-moi d'avoir une pensée pour les marins pêcheurs de l'île de Sein, qui sont les premiers à avoir répondu à l'île du 18 juin. Je sais pas si t'en as.
On les voit dans l'excellent film.
Ouais, je sais pas si t'en as dans tes candidats. Et après, moi, j'aime bien la démarche parce qu'il y a un sujet que t'as pas évoqué et qui, à mon avis, est complètement sous les radars pendant la campagne qui arrive. C'est la suradministration, c'est les normes, c'est tout ce qui rend les gens qui entreprennent complètement fous aujourd'hui, qui les annihilent même dans l'idée d'entreprendre. Et moi, je tiens mon réseau de ruraux à ta disposition.
Mais avec plaisir.
Si tu veux, les profils particuliers pour tourner, je t'aiderai à trouver ces profils.
Mais voilà, Français libre.
Qui poste des vidéos, qui explique comment il travaille, et Charles ira les voir.
Charles n'est pas Charles de Gaulle. Mais le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un décalage entre l'envie de porter des idées et ceux qui vont les porter, ces idées. Parce que quand
et
on voit
le sujet qui font gagner une élection.
Mais quand on voit le casting qui nous est proposé, il y a une trentaine de candidats déclarés, et encore, on pourrait rajouter 10 de plus qui s'apprêtent à se déclarer, sans doute après l'été.
Bientôt Castex,
Hollande, et tout ça, et les autres. Bref, et tu te dis, sincèrement, où sont les visionnaires? Où sont ceux qui nous projettent un peu dans l'avenir? Pas en nous racontant des balivernes, en nous expliquant que la jeunesse est l'avenir de la France, parce que ça, tout le monde peut le faire, c'est quand même assez bateau. Non, des choses très concrètes sur les défis de demain, et je trouve que pour l'instant, effectivement, c'est extrêmement pauvre en proposition. On a beaucoup de candidats,
mais très peu de propositions. Dans le film qui tourne en ce moment, dans la bataille de Gaulle, tu vois vraiment ce qui est central dans le personnage, c'est que De Gaulle, certes, il a une certaine idée de la grandeur de la France, et il se bat pour ça, mais il est déjà dès 41, il est déjà dans le coup d'après, dans comment on va reconstruire le pays dans la démocratie. Et ça, je trouve quand même que c'est ce qui manque dans les politiques d'aujourd'hui. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, les sujets qui font gagner une élection, c'est pas les sujets à long terme, c'est pas les gens qui ont une vision, une idée sur la France à long terme qui seront capables de gagner l'élection. Et ça, c'est pas que de la faute des politiques, c'est de la faute aussi des Français et des citoyens qui vivent d'abord pour leur petite gueule avant de vivre pour l'unité d'un pays.
Mais c'est tout simplement ça. Pas d'idée.
Et puis par ailleurs, moi, ce qui me l'exemple que je retiens aussi, c'est très grandiloquent, mais quand même, j'appelle ça Français libre, etc., aussi en hommage, c'est pas pour me prendre pour qui que ce soit, mais c'est en hommage à ces Français, ce qu'on appelait les Français libres, c'était les résistants. En 40,
c'est en résistance aujourd'hui.
Pendant l'occupation, pour résister, fallait quand même être extrêmement courageux. Donc je trouve,
fallait être dans l'inégalité.
Là aujourd'hui, il n'y a pas de situation dans laquelle on pourrait se mettre en résistance, etc. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le courage que ces gens ont eu à une certaine époque, ça doit être pour nous une espèce d'exemple. C'est-à-dire que on doit se rappeler que les Français, il y a eu quand même des périodes dans lesquelles ils ont vraiment montré qu'ils étaient faits d'un bois particulier. Voilà.
Et le fait d'utiliser ce créneau-là, Charles, je trouve que c'est intéressant parce que ça évitera quand même que si demain Bardella ou Marine Le Pen passent, ça soit le seul créneau des Insoumis. Parce que ce créneau-là de la résistance, ils vont le prendre. Et ça serait quand même dommage que la Nièvre, ils soient qu'à eux.
Vas-y, parce que tu voulais prendre la parole.
Ma critique sur le mouvement politique de Charles, elle n'est pas négative.
Mais ça n'est pas un mouvement politique.
De toute façon,
pas parler français.
Non, mais de toute façon, il faut. Et c'est vrai qu'on ne parle pas la même langue. De toute façon, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est les partis politiques qui font les rois, alors que les partis politiques qui représentent au plus 0,5% des Français. Il faut réinventer des formes de dialogue. Il faut aussi. Charles, il a une position intéressante entre la vision politique et les médias. Il faut aussi recréer une conversation aujourd'hui avec l'ARCOM, avec tout ce qui a pu se passer. On dirait que tout est un peu cloisonné, tout est un peu en silo, alors que ça a un côté un peu absurde. Moi, c'est pas une critique négative. J'encourage Charles à porter ses idées politiquement.
Mais ça n'est comme pas il a mon envie projet, mais bon, c'est pas grave.
Nous sommes avec Jean-Marc qui nous appelle de la Nièvre. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue. Vous pourriez envoyer une vidéo alors à Charles de ce que vous faites, de votre travail, de ce que vous attendez ou pas ?
Je pourrais lui en envoyer des dizaines. Des dizaines. Moi, je suis agriculteur comme Didier, je fais le même métier. Bon, on a déjà eu l'occasion de parler au téléphone, au GG. Ma femme est aide-soignante, donc pile poil dans les clous. Moi, agriculteur, nous, on travaille comme des forcenés à longueur d'année, jour et nuit, pour ainsi dire. Et puis on est pas reconnu dans notre boulot. On s'aperçoit qu'autour de nous il y en a qui rigolent quand ils nous voient travailler, quoi. Souvent des gens qui travaillent pas ou plus. Et puis on en a marre, quoi. On en a marre de pas être reconnu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui libérer, moi je suis pour tout libérer le travail déjà, c'est-à-dire travailler quand on veut, autant qu'on en veut, gagner de l'argent autant qu'on en veut. Si on travaille beaucoup, on mérite beaucoup.
Ce qui est marrant, Jean-Marc, parce que ce que vous dites, c'est exactement la promesse faite par Emmanuel Macron en 2017. Il a été élu sur ce programme-là, la libération du travail. D'ailleurs, il avait porté les lois sur
les
le travail.
Les doléances, écoutez les voilà. Français.
Et aujourd'hui, on se rend compte que 10 ans après, on en est toujours à se dire...
On a augmenté les taxes et les contraintes. Voilà. Jean-Marc, la question simple, aujourd'hui, là, puisqu'on vote dans un an, hein, pile, est-ce que vous avez votre candidat aujourd'hui ou pas?
Difficile à dire. Alors, mon candidat, il sera à droite, c'est sûr.
Mais vous l'avez pas. Voilà, vous êtes difficile à dire.
Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas.
Voilà, il n'y en a pas. Parce que, Jean-Marc, nos sujets, ils sont aussi sous les radars, quoi. On va faire 15 jours sur la petite Liana et le dysfonctionnement de la justice. Et ça, je trouve que c'est normal parce que c'est terrible. Mais en même temps, nos sujets, c'est devenu, enfin, tout ce que vous décrivez sur le travail pas reconnu, sur, c'est quand même devenu des sujets minoritaires, si ce n'est dans la société, au moins dans la politique, quoi.
Mais Jean-Marc, on va regarder justement ce qu'en pensent les Français. On verra ça à l'aune du nombre de vidéos et de témoignages que tu recueilleras, mon cher Charles. Et je remercie Jean-Marc d'avoir été avec nous. Donc, tu rappelles ton site internet,
françaislibre.com.
Voilà. Et puis,
sans c'est dit.
C'était l'appel du 18 juin de Charles. On a un autre Charles maintenant qui s'adresse aux Français. Donc, on verra si ça devient le grand Charles. Regardez,
c'est bon,
on l'a mis en uniforme,
ça pas mal.
Avec une casquette.
Et c'est vrai qu'il fait peur le
militaire. Oui, mais quasiment une casquette portée façon racaille, tu sais, sur le haut de la tête, et non pas comme un général.
Façon plutôt 7e compagnie, là.
Voilà.
T'as Saint-Chaudard au Pithiviers, quoi. C'est... Allez, dans un instant, mais justement.
Gendarme de Saint-Tropez.
Parlons de ces Français qui, à 70% aujourd'hui, préfèrent un bon salaire plutôt que du temps libre. Vous venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16, il est 10h20.
C'est Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Grande gueule sur RMC, RMC Story. RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. Et RMC vous offre la prime de match. Attention, coup de téléphone avant 18h aujourd'hui. À tout moment, on peut vous appeler. Et vous savez combien il y a gagné à la prime de match ? 67 500 euros. On est parti du début de la Coupe du Monde d'une cagnotte de 30 000 euros. Et chaque but, 500 euros. Et là, en ce moment, quand même, ça tombe pas mal les buts. Là, il y en a.
Oui, du coup, ça doit faire à peu près 75 buts.
Oui, exactement, hein, chef. Et on est à 62 500 euros à gagner. 67 500 euros à gagner. Et pour ça, il faut envoyer but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16.
et ensuite vous êtes tiré au sort. On vous appelle et il faut donner le montant exact de la cagnotte. Coup de fil avant 18h ce soir dans l'un des shows d'RMC. Ça peut tomber à tout moment. Même nous, nous ne sommes pas au courant. Restez bien à l'écoute. Tiens, justement, parlons aux ailes. Une étude qui démontre que 7 Français sur 10 aujourd'hui préfèrent gagner plus plutôt que de bénéficier, comme on dit, d'un meilleur équilibre de vie.
Oui, ce sont les actifs qu'on a interrogés. Près de 7 actifs sur 10 déclarent aujourd'hui préférer une augmentation de leurs revenus, tandis qu'une minorité place l'équilibre de vie au sommet de ses priorités. On voit bien que cette tendance est totalement à l'inverse de ce qu'on avait pu raconter à la sortie du Covid. Sortie du Covid, nous avait expliqué que désormais les Français allaient privilégier leur vie personnelle, leur équilibre, etc., et que le travail passerait à côté. Bah là, je pense que les Français sont rattrapés par la réalité de l'inflation, des préoccupations financières dans un contexte économique qui est pas facile, l'érosion du pouvoir d'achat. Donc vivre d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, ça ne permet pas de payer des charges de plus en plus lourdes. L'énergie, là, récemment, on l'a vu avec la crise au Moyen-Orient. Et donc, il y a une préoccupation. Et peut-être que, pour revenir à ce que disait Charles, puisqu'on parlait de la présidentielle avec lui, peut-être qu'effectivement, le salaire, le pouvoir d'achat, ça va être l'un des grands enjeux de la présidentielle. Comment mieux gagner sa vie?
Alors, plus d'argent, moins de temps libre. 32-16 pour le dire au GG. Flora, d'accord avec ces 7 Français sur 10?
Non, mais c'est évident, la question est mal posée. Depuis 6 ans, il y a de l'inflation. Tu parles du Covid, donc on va prendre depuis 2020, depuis le Covid. Depuis 6 ans, l'inflation n'a cessé dans notre pays. Tout coûte plus cher, les charges coûtent plus cher, les produits alimentaires coûtent une fortune. Évidemment que les gens ont besoin de payer leurs factures et que c'est prioritaire. Personne n'a jamais dit que les gens... Non. Personne n'a jamais dit que les gens ne voulaient pas payer.
La gauche, pendant très longtemps, nous a fait croire qu'en travaillant
vivrait
mieux. Il y a eu les 35 heures et on s'aperçoit que, idéologiquement, cette idée est fausse.
Non,
les Français pensent que, quand même, avec bon sens, qu'il faut quand même gagner sa vie pour bien vivre. Il faut bien gagner sa vie pour bien vivre. L'idée qu'on travaillerait toujours moins, mais qu'on aurait une vie très agréable et que tout serait pris en charge par on ne sait qui, je ne sais pas qui l'argent qui tombe du ciel, c'est quand même c'est quelque chose que les Français n'y adhèrent pas quoi. C'est ce qu'on voit dans ce sondage.
C'est juste que dans un contexte économique où il y a à peu près le plein emploi, où il n'y a pas trop d'inflation, l'inflation est contenue, et où les gens vivent bien, c'est le principe de l'offre et de la demande, la loi du marché. Quand il y a plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi, les salariés ont des revendications qui augmentent. Quand il y a moins d'offres d'emploi et plus de demandes d'emploi, les salariés ont des revendications qui baissent. Et aujourd'hui, on est en train de le voir, le marché du travail, et le chômage augmente. Et on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais
c'est vrai qu'il repart à la hausse.
Le chômage repart à la hausse, et avec l'intelligence artificielle, excusez-moi de vous le dire, c'est que le début. Donc en fait, Didier, tu avais totalement raison tout à l'heure quand tu disais que ce qui était admirable chez De Gaulle, c'est qu'il était déjà en train de penser le problème d'après. Pendant la guerre, alors qu'il y avait des soldats français et autres qui mouraient chaque jour et chaque heure, le général de Gaulle, il disait « Attention à la souveraineté, on va devenir une colonie américaine ». Aujourd'hui, on est en 2026,
on est une colonie américaine,
et il n'y a pas un politique qui est en train de vraiment réfléchir à comment en sortir. Alors oui, ils font des tweets. En ce moment, ils disent « Ah mince, comment ça, on n'a pas accès à Anthropic ?» C'est quoi ce problème, Anthropic, l'intelligence artificielle, qui a débloqué encore des nouvelles fonctionnalités très puissantes. Les politiques français disent ah bah mince, on n'a pas de serveur européen au niveau de ceux des Américains qu'on utilise. Mais c'est quoi la solution à 20 ans, à 30 ans? Pareil sur la question de travailler plus, gagner moins, travailler moins, gagner plus, travailler plus, gagner plus. Personne ne nous dit qu'est-ce qui va se passer à 20 ans. Et une bonne politique publique, elle se conçoit à 20 ans.
Ouais. Moi, je crois quand même que les gens se sont rendus compte que à travailler moins si t'as pas le pouvoir d'achat, ça sert à rien, oui, le temps libre, quoi. Oui. Ça sert à rien. Et contrairement à ce que tu dis, Flora, il y a quand même une partie des gens dans le débat public aujourd'hui qui t'expliquent que faut aller vers la semaine de 32 heures, que faut aller vers la semaine de 4 jours. Et à un moment donné, il y a certes des revendications des salariés, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui en ont plein le cul que chaque fois qu'ils gagnent 10, ils s'en font piquer 7, quoi. Ou 8. Parce que si tu commences à additionner la TVA avec toutes les charges que tu payes, t'es plutôt à 7 ou 8 sur le chiffre d'affaires. Et à un moment donné, je pense que les gens, ils voudraient pouvoir faire en sorte que leur travail leur rapporte un certain confort de vie par le pouvoir d'achat, y compris ce qu'on peut ou ce qu'on beaucoup. Je pense que la problématique est la même. Et c'est qu'après que tu profites du temps libre. Et je pense que ce concept qui a consisté depuis les années 80 à faire croire aux gens que le temps libre rendait heureux, on est arrivé au bout. Parce que tu peux avoir du temps libre, mais si t'as pas le pouvoir d'achat, ça te rend pas heureux.
Il y avait même du temps de François Mitterrand, un ministère du temps libre.
Bien sûr.
Qui avait été créé. Mais là, dans la campagne, souvenez-vous.
Et la procrastination, c'est quand même là où excelle tout dépend entier de l'économie, quoi. Hein, faut quand même le dire, quoi.
Oui, mais regarde, les insoumis et une partie des écologistes veulent la semaine de 32 heures, je crois. Hein.
Mais toujours autant d'hôpitaux.
Oui, mais.
Alors,
toujours autant d'hôpitaux et d'écoles gratuites.
Et toujours qu'il y en ait qui payent plus d'impôts pour qu'ils arrivent là.
Travailler et toujours assurer l'État-providence et l'argent public qui coule à flot, il va falloir expliquer comment on fait. Hein.
Charles.
Non, mais écoutez, moi, je suis rassuré par ce sondage parce que ça montre effectivement qu'il y a un petit changement de mentalité par rapport à ce qui avait tendance à se répandre ces derniers temps, où vraiment le travail devenait une chose à la fois secondaire et quasi interdite en France. C'est interdite par la force des choses.
Sandrine Rousseau parlait de l'éloge de la paresse.
Éloge de la paresse, il y a eu toute la mode de la slow life. Il y a bien sûr la semaine de 4 jours qui s'installe joyeusement. Et puis il y a même une espèce de criminalisation de l'ambition professionnelle. C'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui vraiment très ringard et très beau.
Tu veux être riche.
D'avoir envie de gagner de l'argent, de progresser dans sa carrière, même de faire une carrière. C'est devenu un truc vraiment ringard, de bourrin, limite facho. C'est devenu presque facho, voilà, d'avoir de l'ambition. Donc je suis content de voir que les Français sont en train de revenir de ça. Et effectivement, de toute façon, c'est tout bête. Si vous n'avez pas de quoi profiter de votre temps libre, ça ne sert à rien ou pas à grand-chose d'en avoir. Et je pense que le coût de la vie fait que les gens, ils ont effectivement envie de gagner plus. Pour moi, le grand sujet de la prochaine présidentielle, ce sera comment gagner plus. Comment faire en sorte que les salaires et les rémunérations des gens augmentent. Donc ça passera par des baisses de charges et de taxes. Ça passera aussi par plus de distribution au sein des entreprises. C'est-à-dire, faut pas forcément beaucoup de redistribution, mais faut qu'au départ, l'argent soit bien distribué avec des salaires plus importants.
C'est vrai que quand Sarkozy, il y a maintenant bientôt 20 ans pile, a dit travailler plus pour gagner plus, c'est vrai que ça a fonctionné.
Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Les
heures supplémentaires.
Pourquoi? Je vais terminer ma phrase.
Les heures supplémentaires, ça a marché.
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Nicolas Sarkozy s'est pris la crise des subprimes en pleine face.
2008,
au même titre que François Hollande s'est pris la crise terroriste en pleine face, ou que Emmanuel Macron s'est pris la crise sanitaire en pleine face. Aujourd'hui, on peut vivre dans un monde de bisounours, ou alors on peut se dire.
C'est faux que le travailler plus et gagner plus, ça n'a pas marché.
Si je peux pas.
Factuellement, tu dis des
choses fausses. Non, c'est pas vrai.
Factuellement, ça a cartonné. Et Hollande a fait une erreur historique en supprimant.
C'est supprimant les heures supplémentaires, à mon avis, défiscalisées. C'est la seule fois dans l'histoire de France depuis 81 où on a rapproché le brut du net.
Si on ne prend pas en compte le fait qu'aujourd'hui, être président de la République, ça veut dire faire face à des crises de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses, dans leur nature, d'une crise sanitaire, une crise catastrophe climatique, une crise économique, c'est la preuve que notre système, il est en train de se casser la figure.
Et donc, je vois pas en quoi les attentats du Bataclan empêchaient François Hollande de réformer ce pays.
Parce qu'il a fait la guerre au Mali, ça a coûté de l'argent et que ça a mobilisé les forces.
C'est plutôt les frondeurs qui l'ont empêché de faire des
réformes. Il a supprimé la détaxation des heures supplémentaires, ce qui a fait perdre du pouvoir d'achat à beaucoup de gens.
Qui a été une erreur politique. D'ailleurs, il l'a reconnu.
Mais bien sûr, il a même renié sur des. Je me souviens, par exemple, il a interdit, souvenez-vous, le service qui permettait aux particuliers d'être chauffeur Uber. Vous vous souvenez, ça s'appelait s'appelait Uber Pop. C'était très bien, ça donnait du pouvoir d'achat supplémentaire à plein de gens. Bon bah, ils ont supprimé ça par pur dogme idéologique.
Les impôts.
D'accord.
Et que, bon,
donc s'il y a une chose qui est sûre sur la personne qui gouvernera la France en 2027, c'est que elle aura affaire à des crises de nature extrêmement diverses et de gravité extrêmement.
Flora, aux États-Unis, par exemple, les États-Unis affrontent des crises très importantes. Et pourtant, aux États-Unis,
et alors le pouvoir d'achat aux États-Unis, tu crois que ça va bien?
Les Américains.
Tu crois que les inégalités aux États-Unis, elles se passent comment?
C'est toujours le grand
innovation.
Ça reste depuis l'innovation.
D'accord. Sur des millions, sur 400 millions, je sais pas combien ils sont d'Américains.
Aux yeux des Américains.
Oui, c'est un plus grand pays que
ils nous regardent à peu près comme nous, on regarde les habitants des pays en développement.
Mais qu'on déjà, appelle pudiquement en développement. Face aux Américains, on n'est pas la France, on est de l'Union Européenne.
On est de.
Non, mais on n'est pas comparable.
Bah oui, mais on n'est pas un continent d'innovation.
L'Union
Européenne est devenue un continent de tourisme et de régulation.
Mais l'Union Européenne est devenue un continent.
Parler. Je vais dire quelque chose sur l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est 450 millions de consommateurs. C'est le plus grand marché du monde. Donc aujourd'hui, on devrait être ceux qui font la loi sur le marché de la consommation et le marché de la concurrence.
Regarde au sein de l'Europe même, où sont les Français par rapport aux autres dans l'Europe. Tu ne peux pas savoir. On est pauvres. Va voir à Copenhague, va voir à Amsterdam, va voir en Autriche, va voir en Allemagne.
Le niveau de vie de la Pologne est en train de nous rattraper.
Les Polonais nous dépassent. Oui, c'est ça que donnent ces années de collectivisme. Alors, et d'égalitarisme. On est devenu pauvre, donc les Français en ont ras le cul. Ils sont 7 sur 10 en avoir ras le cul.
Vous préférez gagner plus ou travailler moins? C'est la question qu'on a posée. Travailler plus,
les deux.
Gagner moins. Alors, on a mis un bon salaire, hein, bien sûr.
Les deux.
Ben, un bon salaire. C'était simplement pour vérifier si on était sur le même étiage que l'étude qui nous a servi à la discussion. C'est exactement le même. Pareil. On est 70-30. Dans un instant, si l'extrême droite gagne, c'est l'insurrection. Ça a beaucoup provoqué de réactions, ce qu'elle nous a dit hier Aurélie Trouvé, la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Justement, on va réécouter le RN au pouvoir, dit-il, il faudra des mouvements populaires, il faudra l'insurrection. Qu'est-ce qu'on met derrière le thème insurrection? Vous venez en discuter avec nous, il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Avec les GG, avec les Grandes Gueules, vous venez prendre la parole, vous venez discuter, vous venez débattre, Didier Giraud, Charles Consigny, Flora Guebali. C'est intéressant de vous écouter, notamment là sur cette idée d'insurrection au cas où le RN gagnerait l'élection présidentielle. En fait, on en parlait avec Aurélie Trouvé, la députée de la France Insoumise. Elle était avec nous, on commentait avec elle. Vous savez ce qu'a dit Bagali Bakayoko, le maire de Saint-Denis. Il dit, il peut y avoir le droit de siffler la Marseillaise. Un petit peu plus loin dans son entretien, dans le journal L'Opinion, M. Bagayoko dit, si jamais le RN, arrive au pouvoir, il y aura sûrement un soulèvement populaire, mais il ne faut pas que ce soit l'insurrection. Et c'est là-dessus qu'on en parlait avec Aurélie Trouvé.
Qu'il y aura une résistance populaire citoyenne contre l'extrême droite. Non, mais parce que vous comprenez l'insurrection, on prend les armes, etc. Regardez la définition. L'insurrection, c'est pas forcément prendre des armes, c'est
donc,
de la résistance
si le rassemblement
qui peut être
gagne,
citoyenne et pacifique. Mais sachez que oui, si le Rassemblement national gagne, nous serons en résistance citoyenne, populaire et pacifique. Bien entendu, nous le sommes déjà.
Alors, résistance mélange, populaire et pacifique et insurrection, on voudrait savoir ce qu'il voudrait faire.
Oui, mais
faire,
déjà, Madame Trouvé, quand même, elle mélange un peu les termes. La résistance, ce n'est pas l'insurrection. La résistance, on en parlait tout à l'heure avec le général de Gaulle. L'insurrection, c'est vouloir changer le pouvoir en place. Et une insurrection, alors ça peut se faire d'une façon pacifique, mais moi je trouve que l'insurrection pacifique est un peu un oxymore, donc c'est souvent quand même renverser le pouvoir établi par les armes. Donc elle est un peu gênée, en fait elle mélange un peu les concepts. Alors ça voudrait dire que si jamais Jordan Bardella ou Marine Le Pen sont élus démocratiquement, il faudra donc appeler les citoyens, les mettre en danger d'ailleurs, aller donc prendre le pouvoir par la force, enfin renverser le pouvoir par la force. Donc déjà tu mets des gens dans la rue, ça me fait penser à Donald Trump qui disait aux Iraniens allez-y j'arrive, on a vu ce que ça a donné. Donc c'est quand même une responsabilité terrible d'appeler les gens à vouloir renverser le pouvoir dans la rue alors que tu as perdu dans les urnes.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Aurélie Trouvé ou pas? Oui, non, Didier.
Ah bah pas du tout. Moi, je me demande qui est cette dame et de quel point de vue elle parle pour en arriver là. Il se trouve que hier soir, j'ai visité le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Et dans l'histoire de la France depuis 1789, parce que le début de la démocratie, il est là, il y a une seule fois où le pouvoir a été pris par la force en France, c'est le 18 Brumaire, c'est Napoléon, et ça s'est fait au Palais Bourbon. Mais quand tu ressors d'une visite de plus d'une heure au Palais Bourbon, je trouve que tu ressens le poids de la séparation des pouvoirs. Et tu ressens tout le poids de l'importance de la démocratie et tu te sens éminemment citoyen quand tu sors de là-bas. Donc comment aujourd'hui Madame Trouvé est capable de
qui est députée,
comment est-elle capable de dire si le résultat des élections ne nous convient pas, nous reprendrons le pouvoir par la force, parce que c'est ça qu'elle t'a dit hier. Et je sais pas par quel cheminement intellectuel un député peut en arriver là. Je pense que ces gens-là sont tordus dans leur tête et dangereux pour la démocratie. Parce que aujourd'hui, et je l'ai dit juste avant, c'est quand même terrible de laisser des mots comme résistance, parce que résistance, ça veut dire quelque chose dans notre pays, et laisser à ces gens-là ce pouvoir-là et s'octroyer ces mots-là que sont la résistance, que sont le fait de contester un pouvoir élu démocratiquement dans la rue, je pense que c'est gravissime pour notre pays.
Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que des buzz. C'est ce que disait Roger Stone, le conseiller de Donald Trump, qui l'a aidé à accéder au pouvoir la première fois, et qui expliquait que l'important, c'est pas qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est qu'on parle de toi. Et vous auriez remarqué que LFI, on parle d'eux. Madame Trouvé, c'est pas la plus connue des députés, mais peut-être qu'avec cette séquence, il y a des nouvelles personnes qui connaissent Aurélie Trouvé. C'est ainsi que LFI fait monter des leaders. Bali Bagayoko, personne ne savait qui c'était avant les municipales, il a gagné une ville de taille, Saint-Denis. Bon, c'est pas non plus voilà.
C'est pas Lyon non plus.
Je pense qu'il est plus connu que Benoît Payan, le maire de Marseille, qui en est à son deuxième mandat, qui a eu des résultats politiques et qui est à la tête de la deuxième ville de France. Je pense même qu'il est plus connu qu'Emmanuel Grégoire, qui est le maire de Paris. Aujourd'hui, la stratégie, c'est plus tu clives, plus t'es connu. Et il n'y a pas de bad buzz, il y a que des buzz. Le problème, c'est que soit toute la classe politique se met à jouer à cette stratégie pour être connue, et auquel cas la France sera vite à feu et à sang.
Oui, mais...
soit on arrête de donner de l'importance à ces gens, parce que quand Bali Bagayoko explique de manière alambiquée au milieu d'une interview qu'on a le droit d'huer la Marseillaise dans certains cas quand la France déconne, mais que à l'étranger, enfin, tout ça est fait pour que CNews le prenne pour une cible. Et en fait, ça marche. Et en fait, il y a des camps qui se répondent comme ça. Et au milieu, il y a les Français qui sont pris en étau.
Je trouve que tu es plus sur la forme, sur le fond. Moi, je pense que c'est une vraie stratégie de fond. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'intention de faire donner l'insurrection.
Ils sont en train de préparer les Français.
Et le soulèvement, jamais le Rassemblement National
l'emporte. Est-ce que ça marchera?
Non, je sais pas, mais en tout cas, il le prépare.
Je crois pas un instant.
Je pense que si le RN gagne l'élection, la plupart des Français, comme ils auront voté pour le RN, si le RN gagne l'élection, c'est quand même que la majorité des gens auront voté pour le RN.
Donc majoritairement, les gens restent.
La majorité des gens vont quand même
une minorité
respecter
agissant.
Le résultat des urnes. Je pense que beaucoup de gens qui n'auront pas voté pour le RN par souci démocratique respecteront le résultat des urnes, et moi je trouve que ce serait tout à fait normal. Effectivement, la France insoumise, là où je trouve qu'elle joue un jeu dangereux, c'est que autant il est probable que la victoire du RN crée quelques soulèvements ici et là, ça c'est sûr, à certains endroits en France, bon. Mais eux mettent beaucoup d'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font déjà chauffer les braises pour que, si jamais ça se passe, il y ait vraiment quelque chose de plus substantiel que si ça avait été spontané. C'est-à-dire qu'ils organisent déjà l'insurrection. Et ça, moi, je trouve que c'est très grave. Et d'ailleurs, c'est pénal.
Ils devraient être condamnés pour ça.
Oui, d'ailleurs, c'est pénal.
Appelé à siffler la Marseillaise, à mon avis.
Un homme politique, c'est condamnable.
Quoi.
Un homme politique n'est pas censé appeler à des émeutes.
C'est pour ça que Madame Trouvé, très vite, elle change de terme. Elle ne dit pas insurrection, elle dit résistance. Parce que je
et
pense
elle termine en disant pacifique.
Oui, elle a compris bien sûr que ils allaient sur un terrain quand même un peu gay.
C'est pour ça que.
Mais c'est pas la première fois. Code là de... avec cette théorie de dire si
c'est
jamais.
Code là de notre histoire de France, faut pas leur laisser se l'approprier quoi.
On fera
résistance, ça veut dire quelque chose dans notre pays. Hein.
On est avec Jérôme.
Oui, malheureusement, c'est galvaudé.
Jérôme qui va en discuter avec nous. Bonjour Jérôme.
Ça le sera encore plus.
Comment vous avez réagi en écoutant
Salut Flora. Le problème, Flora, c'est que le message qu'ils sont en train d'envoyer, un message aux autres électeurs des autres partis. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que moi, quand j'entends quelqu'un qui parle d'insurrection, si nous, on serait au pouvoir, je dis nous parce que je vote RN depuis 2012. Ça veut dire que nous, on est quand même les mauvais payeurs. Enfin, on est mal payé. C'est-à-dire que le jour où je serai au pouvoir, toi, tu vas appeler un insurrection, alors que moi, en votant RN, étant patriote national, j'ai l'impression que mon pays va droit dans le mur depuis 40 ans, et je respecte les institutions et je respecte le droit électoral. Eh ben, je suis désolé, moi, en 2027, qui soit, j'ai envie d'être un mauvais perdant aussi. C'est ça le message qu'elle est en train d'envoyer. C'est que nous, on respecte les urnes, on respecte, et finalement, si on a 35% au premier tour et qu'on nous fait un barrage républicain, faudra encore qu'on ferme notre gueule. Et puis qu'on attende 5 ans. Ben non, je suis désolé, je serai moi aussi un mauvais perdant. Et encore plus si c'est eux qui seront au pouvoir. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que c'est effectivement un appel à
non, mais Jérôme, on est d'accord.
Moi, à aller descendre dans
Jérôme,
la rue pour contester.
On est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que leur stratégie, c'est de polariser, de cliver et de mettre les gens les uns contre les autres. Et donc là, quand vous dites, bah du coup, moi aussi, je serai un mauvais perdant.
Ils arrivent à comprendre que leur message est pris aussi de l'autre côté, dans le sens où, attends, si nous on perd, attends, nous aussi on va être mauvais perdants.
Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Il a dit, je vais tout conflictualiser. Comme vous le prenez comme un conflit, c'est la preuve que ça marche. Donc en fait, tant qu'on est tous en train de se dire, ah bah ça marche, moi aussi je vais casser, moi aussi je vais détruire et moi aussi je vais pas accepter.
Enfin, mais voilà, c'est pas que de la com, Flora.
Oui, mais pardon.
C'est un projet politique, c'est pas que de la com.
Mais attendez, la politique, quand on n'est pas au pouvoir, c'est que de la com politique.
Non, il y a un projet.
Quand
on dit je vais foutre le bordel partout, il y a un projet politique.
Les exemples historiques montrent que les discours politiques, il faut les prendre au mot, il faut les prendre au pied de la lettre. Et très souvent, quand un homme ou une femme politique ou un courant politique annonce qu'il va faire quelque chose, bah très souvent, une fois qu'il est au pouvoir, il le fait. Ou qu'il est en situation de le faire, il le fait.
Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est notre Trump français. C'est-à-dire que il y avait eu Trump qui n'avait pas accepté sa défaite face à Biden. Il a laissé ses fans envahir le Capitole. Et Jean-Luc Mélenchon pourra toujours dire si ça se passe et si tout d'un coup il y a une insurrection populaire, enfin populaire,
je vous l'avais dit,
insurrection de ceux qui n'acceptent pas la défaite, il dira non, moi je suis contre l'appel aux violences. Enfin, il aura mis de l'huile sur le feu comme Trump l'avait fait avec le Capitole. Après, une chose quand même, c'est que les politiques. Le problème, c'est qu'ils ont trop souvent reculé face à la rue. C'est-à-dire le nombre de fois où les politiques ont été obligés de renoncer à une réforme, à une loi, alors qu'ils avaient été élus avec un programme. Mais bon, il suffit qu'il y ait 100 000 personnes dans la rue pour dire oh là là, attention. Bah, ça a donné aussi des idées.
Ça a donné le pouvoir à la rue. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre aussi ce que nous dit Jérôme. C'est-à-dire que Jérôme, si c'est le foutoir, vous dites moi, je me laisserai pas faire. Quoi. J'irai aussi. Contre mes adversaires à ce moment-là. Quoi.
Donc ça sera la guerre civile, alors.
Eh oui.
Le problème, c'est qu'ils ouvrent une boîte de Pandore. Moi, je considère que mon pays va droit dans le mur et j'ai toujours respecté les institutions. Donc, comme je le répète, pourquoi moi, si c'est les autres qui appellent à l'insurrection, pourquoi moi je devrais respecter
rester assis à ce moment-là, quoi.
Je veux dire, je suis le cocu, quoi. Moi, je sais que mon pays va droit dans le mur avec les ultra-européistes et avec les ultra-internationalistes. Je le sais qu'il va dans le mur. Donc, au bout d'un moment, pourquoi moi je me révolterais pas et je me dirais, tiens, pour mon pays, je vais bouger. Au bout d'un moment, moi, je respecte, mais jusqu'à quand?
On a entendu votre coup de gueule, Jérôme. Ça préfigure d'une campagne électorale qui risque d'être bien animée.
Les dernières élections vous ont été un peu volées quand même. C'est aussi ça.
C'est ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au barrage
républicain.
Par rapport au front républicain. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va nous emmener. Dans un instant, a dit merci Jérôme d'avoir été dans les GG. À bientôt Jérôme pour d'autres discussions politiques, bien sûr. Alors, est-ce inquiétant ce qu'elle a dit, Madame Trouvé? Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder déjà votre sentiment, puisqu'on a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 65%, non quand même, non à 35% quasiment. Hein, c'est intéressant. Mais ça va nous emmener justement
à
l'élection présidentielle. Dans un instant, on sera avec une figure qui s'est faite connaître des Français, vous savez, au moment de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il y avait Charles Alloncle, et il y avait le président de la commission, Jérôme Patrilletus. Jérôme Patrilletus, il est député Horizon du Calvados, c'est le parti d'Édouard Philippe. On va pouvoir commencer à parler de l'élection présidentielle, parce que c'est le discret pour le moment, le discret du moment, c'est Édouard Philippe. Vous entendez sa voix, Édouard Philippe? Vous trouvez qu'il imprime Édouard Philippe? Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.